n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. À chaque crise, son succès littéraire ou philosophique. En 2015, les attentats avaient entraîné la redécouverte d'Ernest Hemingway et de son livre « Paris est une fête ». En 2016, c'est l'élection de Donald Trump qui avait vu bondir les ventes de 1984 de George Orwell et ses critiques de la novlangue. Récemment, tout naturellement, c'est la peste d'Albert Camus qui a été à l'honneur. Pourquoi se réfugier dans les classiques quand tout est bouleversé ?
Salut, c'est Gianni. Aujourd'hui, on me l'a pas mal demandé, je vais essayer de t'expliquer la base de la base du stoïcisme en 2-3 petites minutes. En général, quand on entend le mot philosophie, on peut vite se cacher parce qu'on pense qu'on va probablement parler d'un truc hyper abstrait que personne ne va comprendre. Mais quand on parle de la philosophie stoïcienne, en revanche, elle a 3 gros avantages qui lui permettent de se détacher des autres. Elle est axée sur la pratique, elle est intemporelle et surtout elle est vraiment destinée à tout le monde.
Ce week-end, un article du Monde dévoilait l'engouement depuis une dizaine d'années des Américains pour le stoïcisme. Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, mais aussi le Manuel d'Épictète ou les Lettres à Lucilius de Sénèque, des siècles après, le succès serait encore au rendez-vous pour les penseurs antiques. Je suis toujours friande de ce genre d'informations. La rencontre de l'actualité avec la littérature ou la philosophie devenue intemporelle a toujours quelque chose d'émouvant et de curieux. Que veut-on trouver dans un texte classique ? Pourquoi vouloir éclairer le présent avec des pensées écrites il y a des siècles ? Pourquoi tel écrit et pas un autre ? Toutefois, je mentirais si je ne disais pas qu'il y avait aussi chez moi une forme de perplexité face à ces phénomènes de librairie. Mais que pense-t-on trouver comme recette dans un livre pour aller mieux ? Et de préciser qu'à la perplexité se mêle, c'est vrai, une forme de snobisme, une haute idée de la discipline, une crainte de l'instrumentalisation. Mais si je suis honnête, je ne crois pas que les livres soient sacrés, la philosophie encore moins, et par là même réservée seulement aux spécialistes. Tant mieux si elle est lue, peu importe les motivations, la méthode ou le but. Pourtant, quelque chose malgré tout me pose un problème dans cette démarche. Mais alors quoi ?
Vous voyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs ?
Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie des lecteurs.
Que pensez-vous du livre de poche ?
Beaucoup de mal.
Pourquoi ?
Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement.
Y aurait-il chez moi une forme de soupçon quant à ce genre de texte, leur possible incompréhension ou leur potentielle dénaturation, ou alors une forme de méfiance à l'égard de leur nouveau lecteur, d'une posture susceptible ou d'une intention intéressée ? Pourquoi suis-je si sceptique sur la rencontre entre ces deux mondes, entre ces textes d'autrefois et les lecteurs d'aujourd'hui ? Voilà la question que je me pose systématiquement face au succès renouvelé d'un Orwell, d'un Camus ou d'un Sénèque. Au fond, cette question concerne notre rapport au texte et à la lecture. Que doit-on attendre d'un livre, si tant est qu'on doive en attendre quelque chose ? Les théories de la lecture là-dessus sont multiples. On parle d'un pacte entre l'œuvre et le lecteur, d'une suspension consentie de l'incrédulité, notamment pour la fiction, de l'œuvre qui dépasse son auteur, d'une machine à interpréter. Mais malgré cela, quand on voit le succès des textes classiques, validés par les années et les universités, je ne peux pas m'empêcher d'être étonnée par la valeur qu'on accorde à certains livres. Le livre, enfin le classique des bibliothèques, serait le nec plus ultra, une ressource incontournable, une valeur refuge, quelque chose d'incontestable, un dieu. Voilà ce qui me dérange dans ces succès de grands noms lettrés. On ne les interroge jamais. Ils détiendraient un secret, une autorité, et accoler le nom de Sénèque, Nietzsche ou Camus à n'importe quelle analyse suffirait à la rendre valable. Mais par quel paradoxe, ces penseurs et leurs livres destinés à nous faire réfléchir auraient-ils pu produire l'inverse ?
Il faudra réapprendre à vivre. Ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Face au succès des classiques de la philosophie ou de la littérature, on peut s'enthousiasmer ou douter, invoquer l'acuité temporelle d'une pensée ou s'agacer face à leur démocratisation au gré des crises, peu importe. Mais pourquoi quand même en est-on venu à accepter des textes, à les louer, à les déifier, alors qu'ils contiennent en eux quelque chose de profondément dérangeant, alors qu'ils poussent à s'interroger sur ce qu'on accepte trop facilement, alors qu'ils exhortent à critiquer ce en quoi nous croyons bêtement ou les mouvements de foule que nous suivons ? En lisant Marc Aurèle, j'ai du mal à trouver ça évident évident comme pensée, par exemple, à me dire « Ah oui, c'est vrai, c'est moi le problème et pas le monde. » Même chose pour Paris est une fête. Je n'ai jamais rencontré le Paris dont Hemingway me parle. Voilà donc ce qui m'étonne, me dérange, me déplaît dans ces succès de classiques. On les croit sur parole. Ce n'est pas que je les sacralise, c'est qu'on les sacralise. Eux aussi, mettons-les à l'épreuve.
Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.